Voilà, donc je voudrais tout d'abord remercier l'Académie pour son invitation et donc bien sûr tout le plaisir que nous avons à vous accueillir dans cette région bordelaise réputée pour ses vins. Alors les polyphénols, le vin et la santé, je dirais que c'est une histoire qui a commencé il y a déjà pas mal d'années. En particulier, un certain nombre d'entre vous connaissent le fameux projet Monica où on avait répertorié la mortalité, les infarctus non mortels et les facteurs de risque qui ont conduit à ce que l'on avait appelé le fameux French Paradox qui avait été publié dans Lancet par le professeur Renaud. Et j'ai mis sur cette diapositive l'actualisation des résultats qui datent là, vous voyez, de 1999 et de 2000. Où on voit la mortalité cardiaque pour 100 000 individus, qui est très basse en France par rapport aux USA ou au Royaume-Uni, avec bien sûr des niveaux de cholestérol, des pressions systoliques en millimètres par mercure, qui sont bien sûr élevés. Donc risque élevé qui existe, mais paradoxalement faible mortalité cardiovasculaire. Alors que peut-on dire en termes d'études et en particulier d'épidémiologie? Il y en a de nombreuses et j'en ai sélectionné 5 parce qu'elles sont des études prospectives et de cohorte qui en particulier groupent un nombre d'individus assez important. Alors deux en particulier paraissent vraiment intéressantes, c'est celle d'une part de Stampfer menée en 1988 et une autre de Klatsky qui est un cardiologue de l'université d'Oakland en Californie. Et donc sur 87 526 personnes dans un cas, 129 000 personnes dans l'autre cas, eh bien si on sépare la consommation de vin, de bière et de spiritueux, on peut se rendre compte que le risque relatif de mortalité coronarienne est diminué de l'ordre de 40 à 50%. En règle générale, pour ces 5 études, sur, en tout cas pour 4 d'entre elles, les effets sont meilleurs avec le vin par rapport à la bière et par rapport aux spiritueux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait que finalement avec le vin, on pourrait obtenir ces résultats? Alors un premier aspect, ça concerne très certainement le processus même de l'athérosclérose et des fameuses lipoprotéines basse densité. Vous savez que nous absorbons donc de la matière grasse, en particulier du cholestérol. Ce cholestérol sous forme de LDL peut être oxydé. Par ce que l'on appelle des espèces oxygénées réactives, on parle de ROS dans ce cas-là. Ces LDL modifiés forment des macrophages, puis des cellules spumeuses qui vont à ce moment-là accélérer la prolifération cellulaire, la dégradation de la matrice, et bien entendu, avec le temps, entraîner l'apparition de la fameuse plaque d'athérome. Alors pour lutter contre ce fameux phénomène, eh bien heureusement pour nous, nous avons des défenses antioxydantes. Deux grands types de défenses antioxydantes. D'une part, des défenses enzymatiques avec des superoxydes dismutases, des catalases, des glutathions peroxydases, des glutathions transférases. Et puis des défenses antioxydantes non enzymatiques. Alors la vitamine A, E et C contenues dans un certain nombre de fruits que nous connaissons, des caroténoïdes, des composés phénoliques, contenus bien sûr dans le raisin, un certain nombre de métaux, et puis du glutathion. Et donc la production de radicaux libres conduit en règle générale à des pathologies oxydatives avec peroxydation lipidique, oxydation des protéines, altération des acides nucléiques. Et donc c'est parce que nous avons ces défenses antioxydantes eh bien, que nous pouvons finalement limiter l'influence de ces pathologies oxydatives. Alors la composition du vin est vraiment très originale, puisque le premier constituant du vin, vous le savez en fait, c'est l'eau, 80% environ, l'éthanol, environ 12%, le glycérol, troisième constituant, des acides organiques, acides tartriques, acides maliques, les fameux composés phénoliques qui peuvent atteindre des teneurs de l'ordre de 5 grammes par litre dans certains vins rouges, puis des sucres, alors en particulier plutôt dans les vins liquoreux, des polysaccharides, des composés azotés, des minéraux, des arômes volatiles qui donnent bien sûr le plaisir et l'aspect sensoriel que nous connaissons au produit, des vitamines en vérité en petite quantité, vitamines du groupe B mais pas en très grande quantité. Si on regarde un petit peu la classification de ces composés phénoliques, vous avez deux grands groupes. Vous avez ce que l'on appelle les flavonoïdes et les non-flavonoïdes. Les flavonoïdes sont situés soit dans la pellicule de la baie de raisin, soit dans le pépin. En particulier, trois grands groupes se détachent, les flavonols avec la quercétine, les anthocyanes avec les cyanidols, les malvidines, les catéchines ou les fameux tanins, avec ce que l'on appelle les monomères de tanins, les oligomères de tanins, dont un précurseur, je vous le rappelle, provient de cette université. C'est le professeur Jacques Masquelier qui déjà très tôt avait isolé des oligomères procyanidiques. Et enfin, les polymères de tanins qui, bien sûr, sont de longues chaînes constitutives de monomères. À côté de ces familles, vous trouvez dans les non-flavonoïdes des acides hydroxycinamiques, des acides benzoïques et des stilbènes. Les acides hydroxycinamiques et les acides benzoïques sont situés dans la pulpe de la baie de raisin, les stilbènes, pour eux, dans la pellicule. Qu'est-ce que l'on prend quand on consomme? La moyenne française est de l'ordre de 180 ml de vin par jour. Si vous consommez du vin blanc, ben en gros, vous allez ingérer 44 mg de composés phénoliques totaux. Si par contre vous prenez du vin rouge, le taux est de l'ordre de 400 mg. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a une différence, hein, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous buvez du vin rouge, vous consommez à peu près 10 fois plus de polyphénols qu'avec le vin blanc. Alors, ces polyphénols, ils sont intéressants en particulier parce qu'effectivement, ils inhibent l'oxydation de ces fameuses lipoprotéines basse densité. En particulier, si on prend la vitamine E comme molécule de référence, eh bien, vous pouvez voir que les oligomères, les dimères, les trimères, les monomères de tanins notamment, vont avoir des activités 3 fois à 4 fois supérieures par rapport à la vitamine E sur ces lipoprotéines basse densité. Il existe également des effets antithrombotiques et un de nos collègues italiens, le professeur De Gaetano, a par exemple mené des travaux sur des animaux, sur des rats. Ils reçoivent du vin dilué, de l'éthanol, du vin blanc, du vin rouge ou du vin rouge désalcoolisé pendant une dizaine de jours. On pèse le thrombus 2 heures après la ligature de la veine cave inférieure et vous pouvez voir sur les résultats que finalement la masse la plus faible est obtenue avec le vin rouge complet ou le vin rouge désalcoolisé par rapport au contrôle. Alors comment on peut expliquer les phénomènes concernant l'agrégation plaquettaire? Eh bien il existe en fait des facteurs endothélio-vasoprotecteurs dans l'artère. Les polyphénols du vin rouge vont permettre la synthèse d'une enzyme qui s'appelle l'inos. Il s'agit en fait d'une énosynthase. Et donc cette énosynthase va passer au niveau de la cellule musculaire lisse, provoquer à ce moment-là l'apparition et activer une cyclase guanyle soluble qui entraîne la libération de calcium intracellulaire. De la même façon, il existe deux autres voies. Une voie, bien sûr, des prostacyclines, notée PGI2. À partir de l'acide arachinodique, on peut obtenir ces PGI2. Qui vont, elles, inhiber le recrutement de plaquettes après agrégation avec l'action et la synthèse du NO, de l'oxyde nitrique. Et enfin, dernière voie, c'est l'EDHF, qui est le facteur hyperpolarisant dérivé de l'endothélium, qui permet en fait la libération donc de potassium avec une hyperpolarisation de la membrane. Alors voici ici des résultats sur un modèle animal, qui est le modèle hamster syrien doré. Un modèle en fait pour lequel une diète hétérogène va être administrée. Au bout de 8 semaines, ces animaux bien sûr développent des taux de cholestérol très importants, la plaque se développe et on peut nourrir ces animaux soit avec de l'éthanol, soit avec des extraits de polyphénol de vin rouge, soit le mélange des deux. Les meilleurs résultats que nous ayons obtenus, alors à une dose bien sûr nutritionnelle, c'est-à-dire 0,5 litres de vin par jour, en deux prises, une fois à midi, une fois le soir, donc par gavage. Les meilleurs résultats, c'est avec l'extrait de vin rouge, vous voyez l'effet, à moins 75%, et avec l'éthanol. En fait, il s'agit pratiquement d'une potentialisation, finalement, des polyphénols lorsqu'ils sont mis dans le milieu éthanol. Voici ici, pour des volontaires sains, l'effet de la consommation d'un Bordeaux rouge. Vous voyez, 5,7 ml par kilo de poids corporel pour 10 individus, 10 volontaires sains, par rapport à des volontaires pour lesquels l'administration n'a pas été réalisée. Et donc, vous vous rendez compte que cette activité, elle est à peu près de 20 à 30% supérieure une fois qu'on a absorbé le vin. Alors, ça va trop vite. Alors, voici, par contre, finalement, si on résume un petit peu, les activités potentielles des polyphénols et l'athérosclérose. En particulier, finalement, ces polyphénols inhibent l'agrégation plaquettaire, ils inhibent la prolifération de cellules musculaires lisses, ils augmentent l'activité vasorelaxante, donc l'oxyde nitrique, avec une relaxation qui est en fait médiée, qui était très travaillée par nos collègues de Strasbourg, l'équipe de Stockley et de Schnickert, notamment. Ils inhibent l'expression des protéines d'adhésion, ils réduisent l'oxydation des LDL et du cholestérol, ils augmentent l'activité antioxydante du plasma. Alors, quelles sont les voies possibles, finalement, d'ingestion pour ces composés phénoliques chez l'homme? Ça dépend tout d'abord de la forme et de la nature de ces composés. Vous avez en gros trois formes, les formes à glycone, les formes glycosylées ou les formes polymères. Mais ça dépend aussi, on va dire, de la flore bactérienne intestinale, parce que, en fonction de la flore, vous avez différents types de métabolites qui peuvent être créés et absorbés, des acides phénols, alors qui peuvent être sous forme libre ou conjuguée, sulfatés ou glucuronidés, ou bien des dérivés lactones. Et donc, le schéma proposé, c'est que ces composés phénoliques passent par l'intestin grêle, arrivent au foie, une recirculation par la bile, bien sûr, est possible. De l'intestin grêle, ils peuvent aller également au côlon et vers les fesses. Mais du foie, bien entendu, ils peuvent aller vers les tissus et bien sûr être séquestrés, entre guillemets, au niveau des tissus, retourner vers les reins et enfin vers l'urine. Et dans l'urine, lorsque nous faisons des travaux avec ingestion, par exemple, d'extraits de tanin à des doses assez concentrées, nous sommes capables de retrouver des catéchines sulfates, des catéchines glucuronées, des dimères, des méthylcatéchines ou épicatéchines. Donc tout un tas de métabolites découlant directement des polyphénols du raisin. Alors voilà par exemple ici dans le plasma, ces molécules dont nous sommes en train de parler, dont les pics que vous voyez en spectrométrie de masse ont permis d'identifier en particulier des glucuronides, des composés sulfatés et des composés méthylés. Parlons maintenant d'autres pathologies chroniques, en particulier le diabète. Nous avons utilisé par exemple le modèle de rat à la streptozotocine. Donc la streptozotocine est injectée au niveau du rat. À ce moment-là, eh bien, on détruit les îlots de Langerhans. Et donc, bien entendu, les animaux contrôles que vous voyez, donc qui sont en noir, développent ici un niveau très important de glycémie. Si on administre à ces animaux l'extrait de vin rouge, les polyphénols ou le mélange des deux, eh bien vous voyez les courbes qui sont en bleu, en vert ou en rouge. Donc ces courbes montrent une diminution de la glycémie et on arrive à restaurer en fait la sensibilité à l'insuline à la fin des 31 jours de traitement. Sur l'hypertension, eh bien là aussi on arrive à prévenir l'hypertension, en particulier sur un modèle que nous avons utilisé, qui est le modèle de rat hypertendu au fructose. Les animaux sont nourris avec une diète enrichie à 66% en fructose. Et donc, vous voyez qu'à partir de 3 semaines, on développe un niveau de pression sanguine qui est extrêmement élevé, qui arrive à un maximum aux alentours de 130-135 mm de mercure. Les animaux qui reçoivent dans le même temps soit l'éthanol, l'extrait de vin ou le mélange des deux retournent par contre au niveau du contrôle. Donc, ce sont les courbes en rouge, verte ou mauve. Nous avons pu aussi observer la prévention de l'hypertrophie cardiaque associée au traitement. Nous sommes allés un petit peu plus loin puisque nous avons regardé la production d'anions superoxydes qui génèrent donc finalement les problèmes au niveau de ces fameux LDL. Et donc au niveau de l'aorte thoracique ou du ventricule gauche, les meilleurs résultats que nous ayons obtenus sont avec le mélange éthanol et polyphénol ou une réduction de l'anion superoxyde est de l'ordre à peu près de 50% au niveau de l'aorte et de 20 à 30% au niveau du ventricule gauche. Donc en fait, il y a une enzyme qui s'appelle la NADPH oxydase qui catalyse le transfert d'électrons de son substrat, le NADPH, qui est un accepteur final d'oxygène et qui va générer alors à ce moment-là normalement les fameux anions superoxydes et leurs dérivés de réduction. Et donc, l'ensemble d'extraits que l'on peut administrer aux animaux, que ce soit des tanins, des anthocyanes notamment, ils préviennent l'hyperexpression de la GP91 et la GP22-FOX, ce sont deux glycoprotéines au niveau membranaire cellulaire. Et donc, de ce fait, on arrive à ce moment-là à inhiber eh bien, la création ou l'arrivée de ces anions superoxydes. Un autre aspect concerne les cancers. Alors voici ici un travail qui a été réalisé aux États-Unis en 96. Vous voyez, il est pas récent. Mais ce travail, par contre, il a montré qu'il y avait une prévention d'apparition de tumeurs pour des souris transgéniques sur lesquelles on avait greffé on avait pris, si vous voulez, un virus qui donnait une neurofibromatose humaine, et donc les animaux vont forcément mourir. En règle générale, ces animaux développent des tumeurs au niveau de la queue, au niveau de la tête, et sont condamnés à la mort environ après 75 jours. Ils ont le temps de se reproduire une fois, ils génèrent une nouvelle des petits, et c'est comme ça qu'on maintient la lignée. Ces animaux, si on les nourrit avec l'extrait de polyphénol de vin rouge, eh bien vous voyez que la mortalité arrive à peu près aux alentours de 130 jours, c'est-à-dire on arrive à peu près à doubler la durée de vie de ces animaux. Et donc on pense que les polyphénols pourraient très certainement prévenir l'initiation de la modification d'ADN au niveau cellulaire, en particulier dans le cas des cancers. Alors un point qui est aussi très important et qui a été beaucoup travaillé ici à Bordeaux, c'est le vieillissement cérébral et fonctionnel et l'Alzheimer. En particulier, il existe une cohorte qui s'appelle la cohorte PACUIT. Ce sont des travaux qui ont été menés en particulier par Jean-Marc Rogogozo, l'équipe d'Artigues. Et donc, cette cohorte comprend 4134 personnes âgées en Gironde qui sont suivies depuis 88 et jusqu'à au moins 2003. Une association significative entre la consommation de vin et les performances cognitives ont été notées. Et enfin, une consommation modérée de vin initiale est associée à un risque 5 fois moins élevé de démence incidente à 3 ans, la même relation étant observée dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Depuis, des travaux complémentaires ont été réalisés et le risque de démence incidente est significativement diminué pour les sujets qui consomment le plus de flavonoïdes, que ce soit apporté par le vin ou par les autres aliments, en particulier les fruits et les légumes. Alors, quel type de composé pourrait être intéressant au niveau notamment de désordres neurologiques? Eh bien, par exemple, des oligomères de stilbène, donc de resveratrol, comme le palidol ou la viniférine. On en retrouve pas mal dans le sauterne et le merlot. Ils permettent une inhibition de la croissance tumorale. Ils permettent une inhibition de la phosphorylation d'enzymes. Et donc, bien sûr, il serait certainement intéressant de les tester sur des modèles animaux. Dans une étude publiée dans Nature également, des chercheurs ont pu démontrer que le resveratrol active dans la levure un gène de longévité, dont des sirtuins, ou Silent Information Regulation Protein, d'où une augmentation de la durée de vie d'à peu près 80%. Et donc ça, vous voyez, ça a été publié en Nature, ça a déjà quelques années. Donc finalement, quand on fait le bilan, il y a des changements favorables dans les facteurs de risque cardiovasculaire si l'on consomme du vin qui contient de l'alcool, en particulier avec une augmentation des HDL, une diminution du fibrinogène, du facteur 7, de la thrombose et l'agrégation plaquettaire. Dans le cas des polyphénols, les effets permettent une diminution de l'oxydation des LDL, une amélioration de la fonction endothéliale, une diminution des dommages de l'ADN et une diminution des peroxydes lipidiques dans le plasma. Quels sont les mécanismes d'action des polyphénols sur les pathologies chroniques? Eh bien, vous voyez un certain nombre ici de lignes. En particulier, ces composés peuvent être des pièges à radicaux libres. Ces composés peuvent permettre des économies d'antioxydants endogènes, vitamine E, vitamine C, bêta-carotène. Ces polyphénols peuvent être des cofacteurs d'oxydation des acides gras et donc peuvent permettre une chélation, en fait, du fer et du cuivre qui active en règle générale l'oxydation des acides gras. Les polyphénols peuvent également jouer un rôle sur des enzymes oxydatives comme les cyclooxygénases et les lipooxygénases par inhibition. Et enfin, ces polyphénols jouent un rôle sur la synthèse de NO au niveau cellulaire avec relargage de potassium. C'est donc cette fameuse vasorelaxation hyperpolarisation. Et donc en conclusion, on peut dire que le vin peut jouer un rôle de nutrition préventive lorsqu'il est intégré à l'alimentation et consommé en modération. Que les composés phénoliques du raisin et du vin possèdent une portée thérapeutique pour certaines pathologies chroniques, l'athérosclérose, le diabète ou l'hypertension. Que les recherches sur les effets et mécanismes d'action des composés du vin sur ces pathologies devront se poursuivre. Et enfin, je voudrais vous rappeler ce que disait Pasteur, un de nos pères en médecine. Le vin peut être considéré comme la plus saine et la plus hygiénique des boissons, à condition qu'il soit consommé avec modération. Je vous remercie.